parce que je vous remercie pour toutes vos réactions. Ça, il y a des choses qu'on avait vues, il y en a des choses qu'on avait moins vues. Donc je vais juste faire quelques passages. Si on a, tu nous as demandé si, quand le label change, comment font les pouvoirs publics. Bah oui, c'est un problème de marketing des labels classiques. Par exemple, plan bâtiment de Grenelle a déjà changé, il s'appelle plan bâtiment durable. Ils ont l'air d'être le logo, donc voilà, il y a des stratégies, mais voilà, c'est le problème classique de l'action publique sur ce genre de choses, et on voit que c'est compliqué. Alors sur qu'est-ce qu'il y a dans la RT, là on s'était beaucoup appuyé sur tes travaux et puis sur ceux de Lionel, donc il y a des questions sur lesquelles tu as toi-même les réponses. Il y en a d'autres sur lesquelles il faut qu'on aille les chercher ailleurs, mais par exemple, une idée, je pense peut-être qu'il y a de plus de nous, c'est l'idée que dans la formule de calcul de HQE, il y a une possibilité de faire des choses qui ne sont pas faites, de l'énergie, il y a des possibilités de faire des choses qui ne sont pas faites dans HQE, précisément parce que c'est le même type de formule qu'on adapte et qu'on adapte avec les paramètres, par exemple des régions, sur le climat, etc. Ce qui fait qu'en fait, ça garde une sorte d'unité en termes de visibilité à l'affichage des synergies. Donc, ce que j'avais pu comprendre, c'est que ce n'était pas aussi unitaire avec HQE. Et donc ça, c'était un petit peu un facteur un peu différenciant, mais c'est vrai que c'est plus compliqué que ça. Pas de souci. Alors sur les assureurs, oui, on ne les voit pas dans ce qu'on a dit, mais on les a vus, nous, d'autant plus que Corélie a un collègue qui travaille sur le projet Helios. Donc c'est un projet européen qui vise à faire une sorte de répertoire simplement de l'ensemble des certifications au niveau européen. Pourquoi ? Parce que évidemment la Commission veut harmoniser les marchés ici comme ailleurs, et donc elle veut qu'un peu plus des Polonais, c'est moi par exemple, c'est très important, je pense que on ne devrait jamais faire ça, mais c'est la cause en tout cas. Donc en fait, évidemment, il faut qu'ils puissent se faire assurer, et si le plomb des Polonais a telle certification en Pologne qu'il va travailler en France, en gros ça ne va pas le faire. Donc il y a des projets de la commission pour harmoniser tout ça, et donc le projet en question qui s'appelle Helios 2, c'est la deuxième version, lui travaille pour les assureurs, et c'est effectivement extrêmement intéressant parce que c'est encore un endroit où on voit de la même manière qu'on voit sur Prêt au Zéro, la manière où en fait le label est à l'articulation entre deux agencements marchands, un qui est d'un côté la construction et d'un côté un autre monde économique, ici celui de l'assurance versus celui des banques. On voit très bien que là, il y a un rôle d'interconnexion intersectorielle qui est très intéressant à regarder, et ça fait partie des choses qu'on voudrait regarder. Sur la question de Jean-Pierre Galland, sur les artisans versus les produits, dans le périmètre du projet, on en est au début, comme je l'expliquais, et c'est une question qu'on se pose un peu plus au début. On est toujours un peu embêté de ne pas y avoir un résultat, de savoir est-ce qu'on se sent sur des labels ouvrages, des labels produits, des labels organisation. Parce qu'on voit bien que ce n'est pas les mêmes dynamiques. En même temps, ce qui nous intéresse, nous, de la manière dont on a positionné le projet, c'était de regarder justement un petit peu, de remonter un niveau au-dessus, si je puis dire, enfin d'avoir un objet transverse qui permette de circuler entre différents types de problématiques, mais à partir de l'idée que ce qu'il y avait de cohérent, de convergent dans les différentes configurations, c'est le fait que ça envoie du signal sur les marchés, que c'est des configurations d'acteurs, qu'il y a des logiques de négociation qui sont proches. Alors effectivement, je reconnais que les logiques de négociation qu'on va trouver entre une fédération d'artisans et les pouvoirs publics, elles n'ont pas exactement la même nature que quand il s'agit de standardiser des briques ou des tuiles ou éventuellement de reconnaître, de labelliser un bâtiment. Sans doute les négociations vont être assez différentes. Mais un petit peu une des hypothèses du projet, si je puis dire, on verra jusqu'où on peut la tenir, c'est qu'il y avait un niveau de généralité qui permettait, sans faire une théorie générale de la labellisation dans le rôle de l'action publique, et quand même de voyager dans des configurations assez différentes. Donc l'idée de regarder la certification des artisans versus des ouvrages nous faisait pas trop peur. Je ne sais pas combien de temps on va avancer dans cette idée-là, mais c'était ça la logique du projet. Mais on voit bien les tensions, on les anticipe un peu.
Éco-conditionnalité, concentration. Il y avait une question de Marie, oui, sur...
Oui, éco-conditionnalité, ben, c'est ça, c'est ce que tu disais. Oui, la question, est-ce que ça va faire l'éco-conditionnalité ou est-ce que ça va transformer le secteur? Je pense que c'est une question pour les acteurs du secteur aussi. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle sont investis dans ces trucs-là aussi les fédérations professionnelles. Et on les voit déjà un petit peu, parce que quand même que l'éco-conditionnalité se met en place, il y a déjà des trucs dans la filière qui se mettent en place, notamment ce qu'a repéré Aurélie dans le travail sur ce domaine-là, c'est le fait que certains fournisseurs de matériaux, comment il s'appelle, Certini, c'est ça?
Point P.
Mais on commence déjà à, et qui travaillent avec des artisans qui eux-mêmes sont finalisés, ils commence à sensibiliser les artisans de son réseau en leur disant si vous, vous êtes éco-conduit, si vous êtes RGE, donc éco-artisan, eh ben, on vous fait plus de réductions sur les matériaux qu'on vous vend. On vous augmente votre carte de fidélité. Donc en fait, on voit bien que le label arrivant dans ce secteur-là, il va commencer déjà à avoir des effets dans la filière qui ne sont pas plus pour lesquels il a été fait, mais en fait, la filière se réarticule, se repositionne autour du label. Donc, ça, ça fait partie des effets de type, alors on ne sait pas si ça va déboucher sur la concentration ou pas, j'en sais rien, mais ça fait partie précisément du genre de truc qu'on voudrait pouvoir décrire, là aussi, peut-être avec un niveau de généralité qui est peut-être utopique, hein, mais c'est un peu, ça fait partie de nos objectifs et c'est pas du tout à l'extérieur de notre champ ici. Alors après, sur toutes les remarques de Lionel, là, il y a beaucoup de choses. Vraiment, il faudrait qu'on vienne effectivement en tête-à-tête. On a peut-être pas tout ce que tu indiques, mais je crois qu'effectivement, un point important, c'est les agences. Enfin, comme tu l'as dit, ça ne ressortait pas du tout de ma présentation, mais en fait, on n'a pas. Non, d'abord, on ne peut pas tout dire, mais c'est vrai qu'on n'a pas poussé non plus sur ce truc-là. Mais c'est aussi une réponse à la question de Marie sur le type d'agent, le type d'acteur. Et oui, les agences de certification, elles sont à la fois publiques et privées, elles sont elles-mêmes des consortiums, etc. Donc, quand même, à la manière, je trouve, en termes normatifs, en termes de réflexion sur qu'est-ce que ça serait faire des recommandations, nous-mêmes en tant que sociologue par rapport à ce projet, je pense que c'est des questions qu'on peut se poser. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'à l'issue du projet, on pourra dire sur des bonnes recommandations vis-à-vis du traitement de telle ou telle catégorie d'acteurs. C'est un vrai problème compliqué de savoir est-ce que c'est des intérêts publics ou des intérêts privés. Et donc, les agences, on est tout à fait d'accord. Voilà, je m'arrête là parce que sinon,
la conséquence de sur l'espace, vous n'avez pas de. Rien à dire, sur la production d'espace, l'organisation des professions, penser que sur l'espace, ça ne va pas être conséquent.
On n'a pas rentré ça dans le projet, c'est une bonne question aussi, on ne peut pas tous les avoir. Sur l'espace, effectivement, la question de la décentralisation, oui, on la voit bien, parce qu'on voit bien, sur l'espace, du point de vue de la décentralisation, c'est-à-dire acteur central, territoire, là, je pense que si on va regarder des choses. Mais sur l'espace plus proprement, enfin, au-delà de cette dimension-là, je pense qu'on aura du mal, parce que là, on n'a pas les méthodologies dans ce projet pour regarder ça précisément. Par contre, les échelons régionaux, nationaux et européens, ils sont à regarder.
C'est vrai que sur l'espace et sur les formes induites, il y a des critiques fortes dans le monde de l'architecture, mais assez étonnamment, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment eu de recherche en dehors du monde de l'architecture, la sphère de l'architecture, de recherche sur cette question-là avec une entrée sociologique ou socio-économique. Sur l'effet des labels sur les formes. On peut se demander pourquoi.
Je pense que Taburel a un peu parlé là-dessus, non ? Non ? Il a abordé
la question. Ce qu'il a présenté à Lyon la semaine prochaine, jeudi, non ?
Non, il travaille surtout sur l'habité, pas sur la forme spatiale et sur la forme.
Et sinon, sur les logiques de prix, mais vous devez connaître Renaud Epstein, avec qui on a discuté. Il nous a précisément parlé de ça, il organise un séminaire à Nantes et sur Nantes, ville labellisée. Et en fait, donc il nous a invité à venir discuter avec lui et il nous a beaucoup parlé en fait des logiques de prix, remise de prix, prix de la meilleure ville, prix du meilleur bâtiment, du meilleur ouvrage, tout ça. Et dans la discussion qu'on avait avec lui, on en était à se demander est-ce que c'est des formes d'intervention, notamment de la puissance publique, là en l'occurrence, qui sont comparables à celles de labellisation ou est-ce qu'en fait ça joue sur des répertoires complètement différents ? Parce que c'est vrai que les prix distingue des acteurs particuliers, alors que les labels ont vocation plutôt à faire proliférer des acteurs à un niveau d'égalité. Donc, il y a sans doute des formes de complémentarité, mais c'est pas très clair dans notre discussion. On n'arrivait pas bien à débrouiller les trucs, c'est-à-dire qu'il fallait y réfléchir plus précisément. Mais ça n'a pas l'air d'être, ça a l'air d'être lié, mais pas complètement de fonctionner exactement de la même manière.
Il y a Bruno Villalba qui a un peu traité ça.
Je suis sûr qu'il y a des gens comme ça.
Je propose qu'on passe la parole.